RTL.
Moi, je fais partie des gens qui ont très très peur de l'intelligence artificielle. J'ai très très peur. Si on invente l'intelligence artificielle, parallèlement, on va inventer la stupidité artificielle. On peut pas inventer que l'un des deux.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
Déjà, combien de fois on va sur des sites, puis là, il nous demande de rentrer un code avec des chiffres et des lettres bleues tordues. Il veut vérifier si on est des robots.
La curiosité est un vilain défaut.
Toi, t'es un robot ordinateur. Comment toi, tu vérifies si moi, je suis un robot? C'est moi qui t'ai acheté. Ouvre la webcam. Comment tu peux, toi, robot, me prendre moi pour un robot?
L'humoriste Romain Fraissinet qui a peur de l'intelligence artificielle. Eh bien, est-ce qu'il faut en avoir peur, d'ailleurs? On va poser la question à notre invité Antoine Borde. Bonjour.
Bonsoir.
Bonsoir. Vous êtes le directeur du laboratoire de recherche en intelligence artificielle de Facebook. Est-ce qu'il faut en avoir peur de cette IA?
Non, absolument pas. Enfin, c'est mon avis. L'IA propose des nouveaux outils, des outils qui s'améliorent de jour en jour, qui proposent des nouvelles fonctionnalités. Il n'y a pas à avoir peur de l'IA comme il n'y a pas eu à avoir peur de l'ordinateur ou du traitement de texte avant.
Oh, je propose qu'on prenne un exemple concret. Avant Noël, j'ai lu un article sur Internet qui révélait que Facebook avait une intelligence artificielle qui permettait de résoudre des problèmes mathématiques de niveau universitaire. C'est une véritable info ou fake news ?
La question, c'est en combien de temps, surtout
ouais, c'est... Ah ouais, c'est vrai.
Non, c'est une véritable info. Il faut savoir que l'intelligence artificielle, en deux mots, qu'est-ce que c'est ?
Oui.
C'est d'essayer d'apprendre à un ordinateur à effectuer des tâches de plus en plus complexes, comme les humains le font. Quand on va essayer d'apprendre à faire des maths, par exemple, ou à faire de la traduction, on va regarder des exemples de traduction, on va regarder des exemples et des livres de maths, et on va essayer d'apprendre comment faire pour pouvoir résoudre des nouveaux problèmes.
Oui.
Bon, ben, l'intelligence artificielle, c'est d'essayer de faire ça avec des machines. On va leur donner des exemples de ce qu'on aimerait qu'elles puissent faire, et elles vont apprendre et essayer d'arriver à le faire sur des nouveaux exemples. Effectivement, on a eu beaucoup de succès en traduction automatique à Facebook.
Ça, on va le raconter, ouais.
Mais pour mes petits
problèmes de maths, parce que moi, je ne suis pas du tout matheuse et ça m'a fait rêver.
L'idée de deux chercheurs chez nous, c'est de voir la transcription entre un problème et une résolution mathématique comme un problème de traduction. Au lieu d'avoir de traduire du français en anglais, vous prenez une équation et vous essayez de la dériver ou de faire l'intégrale, qui sont des problèmes de maths du niveau universitaire. Ça peut être vu comme de la traduction. Ils ont appliqué des méthodes qui marchaient très bien en traduction sur des maths et ils ont obtenu des résultats très surprenants pour beaucoup.
Alors, vous êtes, je le rappelle, le directeur du laboratoire de recherche en intelligence artificielle de Facebook France. Ça ressemble à quoi, ce labo? Vous pouvez nous ouvrir la porte, là?
Oui, tout à fait. Facebook a deux laboratoires, en fait, d'intelligence artificielle qui comprennent à peu près 1000 personnes au total.
En France ou dans le monde?
Dans le monde. 1000 personnes dans le monde. Il y a de la recherche appliquée et de la recherche fondamentale. C'est très important chez nous. Recherche appliquée, ça veut dire des gens qui vont chercher des choses qui peuvent s'appliquer directement au produit, à l'application Facebook, à l'application Instagram. Et aussi un laboratoire qui fait de la recherche fondamentale, c'est-à-dire des problèmes beaucoup plus théoriques, beaucoup plus proches de ce qu'on peut faire dans des laboratoires universitaires. Et c'est cette branche dont on a une grosse partie à Paris. Et à Paris, en recherche fondamentale, on a 80 personnes à l'heure actuelle.
Et alors, est-ce que c'est un endroit extrêmement surveillé? Il y a des gardes du corps devant les laboratoires de recherche en intelligence artificielle
de
Facebook?
Super secret pour rentrer.
Alors, pas du tout. Donc, le laboratoire est dans les bureaux de Facebook, donc il est protégé comme le reste des bureaux, mais pas plus. Les chercheurs se mélangent avec les autres employés de façon complètement transparente, même si souvent on arrive à reconnaître un chercheur par rapport à d'autres employés.
Il a une blouse blanche, des cheveux hirsutes et des lunettes.
Il a des horaires un peu décalés, souvent il vous reste un peu plus tard, etc. Mais non, c'est exactement. Et en fait, c'est à l'image de la recherche qu'on fait, c'est-à-dire toute la recherche qu'on fait est ouverte, est publiée et mise en domaine ouvert. L'aspect de la recherche fondamentale pour nous, ce qui est très important, c'est de le faire avec la communauté scientifique.
C'est partagé.
Tout est partagé.
Gratuitement.
Tout est partagé.
On trouve ça où, nous, par exemple?
On peut trouver ça sur... Il y a un site qui s'appelle GitHub, qui est un site que tous les gens de l'informatique connaissent, qui regroupe beaucoup de codes en domaine ouvert. Toutes nos recherches sont publiées sur ce site-là. On en publie des centaines par an. Et en particulier, le problème mathématique dont vous parliez avant, vous en avez entendu parler parce que nos chercheurs l'ont mis en ligne courant décembre. Et de la communauté s'en a emparé.
Juste pour finir sur cette question des mathématiques, ça veut dire qu'il faudra aller sur Facebook pour pouvoir résoudre ces problèmes mathématiques? Ou c'est un logiciel qui a été développé pour les universitaires, les chercheurs par exemple?
Alors, non, il n'y a pas du tout besoin d'aller sur Facebook. Pour toute la recherche qu'on fait, il n'y a absolument pas besoin d'aller sur Facebook. Hein. Les gens peuvent prendre le code, peuvent prendre les recherches, les intégrer à leur propre recherche, les intégrer à leur propre... leur propre modèle sans avoir besoin de passer. C'est tout un domaine complètement ouvert. Des startups utilisent très, très souvent le code qu'on fait pour développer leur propre business.
Gratuitement.
Et on en est très content. Tout est gratuit.
Alors, moi, je voudrais qu'on parle de la traduction automatique. Petit secret de famille, on s'est retrouvé à vouloir préparer une recette. C'était juste après les fêtes. Une recette. On voulait faire un dîner allemand. Bref, voilà. Et on s'est retrouvé avec une recette en allemand. Et forcément, bah, ma femme parle pas mal allemand, mais pas tous les termes techniques. Et donc, on a cherché un traducteur automatique. En quoi vous êtes en pointe chez Facebook en la matière ?
Et en quoi vous pouvez aider Thomas à faire un bon repas allemand ?
C'était très, très bon.
Il ne m'invitera pas, j'espère.
C'était délicieux. D'ailleurs, on s'en est sorti.
Pour aider Thomas, on a développé une méthode d'intelligence artificielle qui peut développer une recette à partir d'une photo. Donc, si vous avez une photo d'un aliment, ça peut générer la recette qui aurait pu le cuisiner.
Ça reconnaît l'aliment et voilà comment
donc
le faire.
Ça, c'est un
et alors,
projet.
Sur la traduction, comment vous avez travaillé pour.
La traduction pour Facebook, c'est extrêmement important dans le sens où il y a plus de 200 langues qui sont parlées sur la plateforme. Mmh. Et la mission principale, c'est d'essayer de connecter les gens et de créer des communautés. Donc, la barrière de la langue est hyper importante. Depuis toujours, on a beaucoup travaillé là-dessus. Un des gros problèmes à laquelle on se heurte à Facebook, c'est que dans les 200 langues, il y en a quelques dizaines au début qui sont des langues très parlées pour lesquelles il y a beaucoup de traductions existantes. Le français et l'allemand, finalement, pour nous, Facebook n'est pas très compliqué. Mmh. Parce qu'en fait, il y a beaucoup de traductions de français à l'allemand et les machines, comme j'expliquais, peuvent utiliser ces exemples pour essayer d'apprendre à traduire des nouvelles phrases. Le gros enjeu pour nous maintenant, c'est d'essayer de traduire des langages pour lesquels il y a très peu de données et très peu d'informations. On va pas parler de dialecte indien, par exemple. En Inde, il y a plus de 30 langages qui sont parlés. Comment est-ce qu'on arrive à traduire tout ça ? Si on veut essayer, par exemple, de traduire du coréen vers l'espagnol, par exemple, il y a très peu de traductions entre les deux parce que les cultures sont séparées. Donc là, on développe beaucoup de méthodes qui permettent finalement d'apprendre à faire de la traduction avec très peu d'exemples.
Saviez-vous que l'intelligence artificielle est aussi un rempart contre la haine et les violences ? On vous en dit plus tout de suite sur RTL.
Mesdames et messieurs, bonjour.
La curiosité est un vilain défaut ?
Je suis un super ordinateur Karl, cerveau analytique de recherche et de liaison.
Sur RTL.
Écoutez, Dave, je puis vous donner l'assurance la plus formelle que mon travail redeviendra tout à fait normal.
Karl, le légendaire ordinateur du vaisseau du film de Kubrick, 2001, l'Odyssée de l'espace. On vous emmène dans votre curiosité du soir sur RTL, dans les coulisses du laboratoire de recherche en intelligence artificielle de Facebook, avec notre invité Antoine Borde. Je rappelle que vous dirigez ce labo, un ordinateur qui se rebelle contre ses concepteurs. C'est de la science-fiction, c'est du cinéma ?
C'est de la science-fiction totalement.
Ouais.
C'est-à-dire que les.
Donc ça veut dire que ça peut arriver. Parce que la science-fiction, c'est une projection dans le futur de ce qui pourrait arriver.
La science-fiction, c'est de la littérature et des projections. Donc moi, je ne peux pas prédire le futur non plus, plusieurs centaines, mais. Étant donné ce qu'on est capable de faire aujourd'hui, c'est totalement impossible.
Mais on avait vu, alors je ne sais plus si c'est fait chez Facebook ou chez un de vos concurrents, mais il y a eu cette histoire d'ordinateur à qui on avait appris un langage et puis qui avait créé ensemble un langage que leur concepteur ne comprenait pas.
Oui.
Alors ça, évidemment, on est tous complètement paniqués en entendant ça.
Oui, c'était des gens de chez nous, tout à fait.
Bon, très bien.
Donc,
ils se sont arrachés les cheveux ou ils se sont
Non, pas du tout. En fait, ce qui se passe, c'est que les machines entre elles, les ordinateurs entre elles en permanence, intelligence artificielle ou pas, utilisent tout le temps des langages pour se parler, qu'on interprète ou pas. C'est des zéros. L'informatique, à la base, c'est des zéros et des uns.
Oui.
Donc, il y a beaucoup de langages comme ça. Dans cette expérience en particulier, on voulait avoir deux machines qui apprennent à parler l'anglais. Donc, c'était le but, parce qu'on veut faire des systèmes de dialogue. Mmh. Au bout d'un moment, l'expérience a continué. Et effectivement, le langage, ça a été un espèce de charabia incompréhensible, où en fait les mots utilisés n'étaient pas du tout les mots qu'on utiliserait en un anglais classique. Donc en fait, effectivement, on a arrêté l'expérience, qui était un échec, puisqu'en fait, elles n'avaient pas appris à apprendre l'anglais. Mais on n'a pas paniqué parce qu'on ne comprenait pas ce qu'elles disaient. On a juste arrêté parce qu'elles ne parlaient pas anglais. Et après, il y a eu un emballement.
Antoine Borde, on découvre avec vous les secrets, les vertus et de l'intelligence artificielle que vous développez chez Facebook. Et il n'y a pas que des vertus. Ce n'est pas seulement pour rendre service aux utilisateurs, c'est aussi pour vous rendre service. C'est aussi du commerce. Quand vous fabriquez, par exemple, grâce à l'intelligence artificielle, des pubs ciblées, vous savez, on est sur Facebook ou sur un site et tout d'un coup on voit arriver une publicité qui, oh, c'est incroyable, j'ai regardé un vélo rose pour ma fille et voilà qui réapparaît alors que je suis en train d'écrire un message à une copine. Comment l'intelligence artificielle a pu arriver à produire ça ?
Oui, alors il faut voir que l'intelligence artificielle est effectivement partout dans Facebook, dans Instagram, dans les plateformes, pour être capable de trier l'information que les utilisateurs voient et permettent de montrer les informations les plus pertinentes. Ça peut être les posts, les photos et effectivement les pubs en particulier. Nous, ce qu'on essaie de faire, c'est de toujours montrer l'information qui va être la plus intéressante pour l'utilisateur.
L'intelligence
artificielle, qu'est-ce qu'elle est capable de faire? Elle est capable de regarder qu'est-ce que des personnes avec des intérêts similaires ont aimé et elle va se servir de ça pour vous montrer.
Ça fonctionne tout simplement à partir de quoi? De mots-clés?
Ça fonctionne à partir de mots-clés. Ça fonctionne aussi pour regarder qu'est-ce que les autres utilisateurs ont qui avaient liké ou qui avaient regardé des vidéos similaires à celles que vous aviez likées ou regardées, ouais, ont regardé par la suite. Hein, par exemple, si vous êtes un amateur de jazz, que vous regardez beaucoup de vidéos de jazz, que vous likez beaucoup de posts avec du jazz, mm-hmm, effectivement, on va vous recommander des nouveaux contenus à base de jazz puisque vous serez dans une communauté d'amateurs de jazz.
Et voilà, grâce aussi à l'intelligence artificielle, Antoine Borde, on peut lutter contre la haine, la pornographie, la violence, de quelle manière sur Facebook?
Oui, alors il faut se rendre compte que sans IA, en fait, ça serait impossible de lutter contre ces contenus maintenant, parce qu'ils prolifèrent énormément.
Donc c'est-à-dire c'est les gens qui mettent des internautes, qui mettent
des messages
des vidéos très violentes.
Des vidéos très violentes, etc. Il faut voir, l'analogie, là, c'est le filtrage de spam, les filtres de spam pour les emails. Si vous vous rappelez, il y a 10 ans, par exemple, au début des mails, on était surchargé de spam, etc., qui arrivait dans les boîtes. Maintenant, on les voit quasiment plus, ils sont directement envoyés dans courrier indésirable et vous les voyez pas. Néanmoins, ça veut pas dire qu'il y en a moins, mais ça veut dire que les outils de filtrage de spam marchent très très bien maintenant. Et bien en fait, nous, notre laboratoire, dans Facebook, on développe des filtres du même type, mais pour des contenus de plus en plus complexes. Ça va être pour des photos, ça peut être pour des textes, et pas simplement pour détecter du spam, mais aussi pour détecter effectivement du terrorisme ou de la pornographie.
Mais ça fait en combien de secondes ça? C'est-à-dire qu'à peine le message est posté, qu'il est repéré et supprimé?
Non, alors un succès pour nous, c'est quand le message est posté et est supprimé avant même d'arriver sur la plateforme. D'accord. Donc ça, pour les contenus pornographiques et terroristes, pour lesquels on a des règles très claires, on est capable, entre le moment où vous mettez la photo et le moment où vous l'uploadez et qu'elle arrive sur la plateforme, elle est lue par des mécanismes d'intelligence artificielle qui sont capables de la retirer. Ou en tout cas, de la mettre en attente avant qu'elle soit revue par un modérateur humain.
Oui, parce que c'est ça, il y a des humains aussi. Et d'ailleurs, ce n'est pas un métier facile.
Oui, on ne sait plus où ils étaient, là, les humains.
Le métier de modérateur qui sont confrontés à ces contenus violents, terroristes, pornographiques, parfois pédopornographiques. Ils sont nombreux à faire ce travail chez Facebook.
Alors, qui travaille à la sécurité de Facebook, c'est plus de 30 000 personnes. Ouais. Et à la modération en particulier, c'est plus de 15 000 personnes. Mm-hmm. Donc, c'est énorme. Hein. L'entreprise au total fait entre 40 et 50 000 personnes. Donc, c'est un énorme effort. Nous, avec l'intelligence artificielle, le but, c'est pas de remplacer les modérateurs humains, mais c'est d'être capable de fournir, comme j'ai dit au début, des outils de plus en plus performants pour leur faciliter la tâche et pour être aussi capable de rendre leur travail le moins difficile possible.
Et c'est quoi le piège, entre guillemets, pour un ordinateur face à ces contenus violents? C'est de se tromper, c'est de mettre le niveau, parce que c'est une forme de censure, évidemment, dans un but pour lequel on adhère les uns et les autres, mais c'est une forme de censure. Donc, quelle est la difficulté pour l'intelligence artificielle?
Ouais, le piège, il est même pas... L'intelligence artificielle va être capable de dire sur une photo « elle me semble douteuse ». Et après, ouais, on va leur demander de mettre un niveau de doute. Vous pouvez, d'accord, voir comme un curseur entre vert et rouge, elle va mettre le curseur soit très rouge, soit très vert au milieu. Après, la difficulté, c'est derrière, quand est-ce qu'on, à quel niveau du curseur on va enlever une photo, on va la laisser, on va la marquer, etc. Ça, c'est des décisions qui sont extrêmement importantes et sur lesquelles il y a une grande discussion en général avec Facebook et les partenaires publics pour déterminer quelles sont les règles de modération sur les réseaux sociaux.
Si je vous dis que bientôt, grâce à l'intelligence artificielle, ben on sera toujours bien habillé.
Ah, ça va vous faire du bien, Thomas.
La
ça
peste.
Va me changer le quotidien.
Je dis rien sur votre pull d'aujourd'hui.
Non,
je vais
rien.
Rester très sympathique. En tout cas, restez avec nous sur RTL.
RTL.
Son nom est David.
Touchez-le, ça fout les boules.
Oh, il a l'air si réel.
La curiosité est un vilain défaut.
Dans un avenir lointain, à une époque de machines intelligentes, c'est le premier enfant robot programmé pour aimer et vivre au sein d'une famille.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
Je suis un petit garçon.
Tu es un vrai petit garçon.
En tout cas aussi vrai que je n'en ai jamais fait un.
La bande-annonce d'IA et le film de Steven Spielberg avec ce petit garçon qui incarne en fait en quelque sorte l'intelligence artificielle.
Il ressemble tellement... Oui, c'est perturbant hein, mais c'est quand on voit ce film.
C'est censé être un robot, oui, mais on dirait un humain.
Mais oui, et d'ailleurs, ça pose la question des sentiments. sentiment de l'intelligence artificielle et des robots. Qu'est-ce que vous nous dites là-dessus, Antoine Borde? Je rappelle que vous êtes directeur du laboratoire de recherche en intelligence artificielle de Facebook.
Vous buvez des cafés avec les intelligences artificielles de Facebook?
Alors, on boit des cafés, c'est
entre
sûr.
Humains.
entre humains. Non, la question des sentiments, des émotions, oui. elle est très importante pour la recherche actuellement. Parce que on pense que les IA vont être de plus en plus à l'interface avec les humains. Enfin, elles vont être, on va s'en servir de plus en plus. Les systèmes de dialogue pour être capable d'interagir avec le monde numérique en parlant. Évidemment, ça semble, ça commence déjà et ça va devenir de plus en plus important.
Donc ça, c'est ce qu'on appelle les enceintes connectées.
Les enceintes connectées ou ce qu'on appelle les chatbots de temps en temps, etc. Et effectivement, il semble évident que si on va avoir des conversations qui semblent naturelles avec une machine, il faut que les machines soient capables d'émotions ou au moins de percevoir l'émotion de l'utilisateur quand il parle. Quand quelqu'un est triste ou quand quelqu'un est heureux, on ne va pas vouloir utiliser les mêmes mots ou les mêmes tons. Donc il y a une recherche là-dedans. C'est encore très préliminaire.
Cette intelligence artificielle permet beaucoup de choses, des outils de traduction, vous en parliez, elle permet de résoudre des problèmes mathématiques
des
extrêmement
équations.
Compliqués.
J'aurais été bon en maths pour une fois.
Et vous avez aussi à Facebook France un chercheur qui travaille en ce moment sur l'inclusion des personnes en déficience intellectuelle. De quelle manière? Qu'est-ce que vous allez leur offrir?
Oui, alors c'est un projet qu'on a développé à Paris avec l'association Une API pour les parents des enfants handicapés et avec le secrétariat d'État aux personnes handicapées. L'enjeu ici, c'est d'être capable de rendre des textes qui peuvent être compliqués, hein, penser aux textes qui expliquent les impôts, aux textes juridiques, d'être capable de les rendre.
Toujours, hein, même quand
voilà,
c'est,
ça peut être utile au plus grand nombre d'ailleurs, hein. Je pense, nous les premiers. C'est d'être capable de prendre du français normal, de textes compliqués, et d'être capable de le simplifier, et de le traduire en quelque sorte dans ce qu'on appelle le FALC, qui est un standard de texte simplifié, FALC voulant dire facile à lire et à comprendre.
Et ça, vous êtes prêt de le sortir, ce logiciel qui permet de simplifier le vocabulaire?
Alors, ça fait un an qu'on travaille dessus, et on espère avoir un premier prototype qui pourrait être utilisé par l'Une API au courant de l'année 2020.
Oui, donc c'est vraiment là dans les tuyaux pour cette année. Et alors,
tout sera encore en domaine ouvert. Donc ça sera utilisable dans ce cadre de ce projet, mais évidemment ça sera utilisable par bien d'autres gens.
Et alors, si Denis trouve que je suis pas bien habillé, franchement c'est désagréable. Hein,
j'ai fait un effort
ce matin. Non, c'est pas vrai. Bon, voilà.
Il y a du gris.
On va se fâcher pour la première fois cette saison. C'est ce jour. Moi, je le dis, c'est le 15 janvier 2020 qu'on se sera fâché pour la première fois sur une question de chiffon. Donc vous pouvez m'aider. Il paraît, avec l'intelligence artificielle.
Effectivement, une équipe de chercheurs de notre laboratoire a développé un projet qui permet de proposer des ajustements aux tenues.
Ouais.
Donc, ce que vous lui montrez une photo de votre tenue ou de la tenue de quelqu'un à qui vous voudriez faire des conseils, je dirais. Et ça va vous suggérer des changements, par exemple, changer la forme d'un pantalon, changer la couleur d'un pull. Et l'idée étant d'avoir une tenue qui va être peut-être plus à la mode. Alors, comment ça marche? En fait, la machine, on lui a montré énormément de photos prises de magazines de mode et elle va être capable de détecter quels sont les agencements ou les formes qui sont à la mode. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que en fait, la mode, ça change, ça évolue. Donc, on peut aussi prendre la machine, lui donner que des images de la mode des années 70, par exemple, et regarder comment est-ce qu'on pourrait modifier son look pour avoir un look plus années
70. On va faire ça pour Thomas. C'est très inspirant.
Non. Le pire, c'est les années 80. J'étais fragué n'importe comment.
Mais tout le monde, rassurez-vous, tout le monde. Est-ce qu'aussi, Antoine Borde, on pourra, télécharger les vêtements qu'on a dans sa penderie? Parce que vous savez que l'idée aussi, c'est de moins consommer. Donc, on télécharge les vêtements qu'on a dans sa
pendrie. Téléchargez vos vêtements.
Oui, et puis on nous propose des associations, voyez, entre les vêtements. On ne pense pas toujours à mettre. Oui.
Tout à fait. C'est une des applications qui est possible.
Bon, ben voilà, j'ai gagné un look et Sidonie aussi, hein, parce qu'il y a du progrès.
Il n'y a pas besoin de télécharger les vêtements, on peut juste télécharger des photos des vêtements.
Oui, mais voilà, ça marche mieux. C'est ce que j'ai essayé de lui dire. Sinon, c'est quelle couleur ce polo? Il y a du gris, il y a du bleu, il y a du noir, bref. On s'y perd. Ça fait mal aux yeux. Alors, plus sérieusement, est-ce que, Antoine, parce que ça, c'est un vrai souci, on parle souvent des fake news et de la difficulté à valider une information aujourd'hui, et on a peur de ces fausse vidéo. Et c'est vrai que l'intelligence artificielle peut permettre de faire dire n'importe quoi à des personnages connus, notamment. On en est où de cette technologie?
Oui, alors ces vidéos qu'on appelle communément les deepfakes, qui sont ces vidéos truquées, qui est un enjeu vraiment très important pour la communauté de l'IA et pour Facebook en général. L'attitude qu'on a prise là-dessus, c'est d'essayer de penser que l'IA qui est capable de générer ces vidéos est aussi la meilleure manière de lutter contre ces vidéos-là.
Donc elle peut les repérer, c'est ça ?
Elle peut les repérer. Ouais. En fait, les recherches montrent qu'en fait, c'est plus simple maintenant pour une IA de détecter si une vidéo a été truquée que pour un humain. Donc la manière qu'on a pris d'attaquer ça, c'est qu'on a créé un grand ensemble de données qu'on a partagé avec plusieurs acteurs, Facebook, mais aussi Microsoft, mais aussi Amazon, pour travailler ensemble la communauté, pour développer la meilleure IA qui permette de détecter ces deepfakes. Et on est assez confiants. Et on a organisé une espèce de compétition dont les résultats seront rendus au printemps.
Ça, c'est le monde que tu connais. Il n'est plus aujourd'hui qu'une parcelle de la simulation neuro-interactive que nous appelons la matrice.
Thomas Hugues, Sidonie Bonnec.
Tu veux dire qu'on est dans un programme informatique ?
Est-ce vraiment si invraisemblable ?
Bienvenue sur RTL, les curieux.
Rien de tout ça n'est réel ?
Qu'est-ce que le réel ? Quelle est ta définition du réel ?
On se balade dans les méandres de l'intelligence informatique avec Antoine Borde, qui est directeur du laboratoire de recherche en intelligence artificielle de Facebook France. Et on découvre avec vous toutes les applications de l'intelligence artificielle. Et notamment, ça permet de créer de nouveaux produits et de changer nos modes de consommation et même de conversation, j'ai envie de dire, avec cet objet qui est une caméra intelligente de portable. Je prononce bien ?
Tout à fait.
C'est quoi ?
Qu'est-ce que ça va changer chez nous ?
Portal, ça peut être vu comme une petite tablette que vous pouvez mettre chez vous qui sert à faire des appels téléphoniques, en particulier des appels avec vidéo, donc qui permet donc de voir la personne à qui l'on parle. Et l'intelligence artificielle joue un rôle hyper important dans Portal. Pourquoi ? Parce qu'en fait, elle va contrôler la caméra. Ce qui fait que vous avez toujours vu, quand vous mettez une webcam, par exemple, au-dessus de votre ordinateur...
Oui, c'est un plan fixe.
Si vous bougez, si vous reculez, etc., vous êtes en dehors du champ. Mm. Moi, je le vois beaucoup avec... j'ai des enfants, avec mes parents, quand ils essaient d'appeler, ils ne sont jamais dans le champ. Pour les grands-parents,
les parents,
c'est compliqué.
C'est souvent les grands-parents qui ne sont pas dans le champ, si j'ai remarqué, moi.
Exactement, c'est exactement ça. Donc là, Portal a une caméra comme partout, sauf que derrière, il y a un logiciel d'intelligence artificielle qui est capable de suivre les personnes dans la pièce. Donc ça peut zoomer, dézoomer la caméra... ou suivre dans la pièce et aussi adapter le son. Ce qui fait qu'en fait, vous le posez à un endroit dans une pièce et après, vous n'avez plus rien besoin de faire. Vous êtes toujours dans le champ avec le son parfait. Ça change complètement la manière d'appréhender les appels vidéo.
Il faut juste être sûr que ça soit bien déconnecté, qu'il n'y ait pas des gens qui nous observent chez nous. Vous savez,
non,
c'est la crainte.
Il y a même un cache physique dessus.
Ah, tout va bien. Vous avez répondu à toutes nos questions. Merci beaucoup Antoine Borde. Je rappelle que vous êtes le directeur du laboratoire de recherche en intelligence artificielle de Facebook France. À bientôt.
Merci.
Merci Denis Bonnec, Thomas Hugues.
La curiosité est un vilain défaut.
RTL.